France Musique.
Bonjour à tous. Bienvenue dans le magazine de France Musique, ravi de vous retrouver aujourd'hui et recevoir mon invité du jour, un ténor tout jeune français qu'on a découvert avec ravissement il n'y a pas un an, c'était l'été dernier dans la Flûte Enchantée à Aix-en-Provence. On le retrouve ces jours-ci dans le rôle d'Admet, oui je sais, c'est dur à Admet d'Alceste, c'est à l'Opéra de Paris. Nous sommes jusqu'à 13h avec Stanislas de Barbeyrac. l'ouverture du concerto pour piano d'Edouard Grieg, version célébrissime avec Christian Zimmermann, absolument magnifique là-dedans, l'Orchestre Philharmonique de Berlin, et Herbert von Karajan qui dirigeait tout cela. Bonjour Stanislav de Barbeyrac.
Bonjour.
J'invente pas un goût particulier pour Grieg chez vous, il y est, et particulièrement pour ce concerto et cette version. Hein.
Oui, tout à fait. C'est un souvenir d'enfance que j'avais plaisir à réécouter. C'est une... Voilà, une cassette que j'avais pris au hasard.
Dans cassette un... Ah bah oui, à l'époque, il y avait des cassettes ouais, encore.
J'avais 8 ans, je m'en souviens très bien. C'est pour ça que je suis assez ému d'entendre ça, parce que ça me rappelle plein de souvenirs. J'avais choisi celle-ci au hasard, et puis voilà. Après, ça a été non-stop, j'écoutais ça tous les soirs pour m'endormir. Uh-huh. Voilà, c'est devenu culte dans la famille, ce concerto.
À l'époque, on écoutait, on était sur des cassettes, on avait encore. Il y avait tout un tas de cassettes chez vous, c'est ça?
C'est ça, il y avait tout un tas de cassettes. J'avais mon petit, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, un magnétophone.
Ouais, c'est ça.
Pourtant, je suis pas si vieux, mais bon.
Ah non, mais on a plein de connus ça encore.
Ouais, c'est ça. Il y avait des cassettes à l'époque.
Chez vous, c'était à Bordeaux, c'est ça, ou à côté de Bordeaux?
Ouais. Alors moi, je suis d'Annecy, exactement. Je suis né à Annecy, en Haute-Savoie, et je suis arrivé à Bordeaux à l'âge de 8 ans. Et je suis bordelais depuis l'âge de 8 ans. Mes racines sont annéciennes. On a beaucoup bougé quand j'étais petit avec mes parents et ma famille, mais voilà, on a élu domicile à Bordeaux depuis donc une bonne quinzaine d'années.
Et vous y êtes encore, toujours?
Et je vis toujours à côté de Bordeaux, maintenant à Barsac, au milieu des vignes.
D'accord.
Et j'y suis très bien.
Ah, j'imagine, oui. Avec le beau temps, en plus, le soleil et tout.
Non, c'est un très bel endroit et une très belle qualité de vie. C'est Bordeaux est devenu une ville en plus magnifique depuis une dizaine d'années, donc on y est très bien.
Vous avez étudié là-bas, vous avez étudié aussi à Paris, à l'Atelier Lyrique, entre autres, vous êtes resté quelques années. Jamais l'idée de s'installer à Paris, justement?
Oh non, jamais.
Ah, surtout pas?
Non, vraiment. J'aime Paris de temps en temps, mais pour y avoir vécu effectivement 2 ans pendant l'Atelier Lyrique, c'est pas ce qui me convient. Et j'avais toujours l'envie de prendre un train dès que possible pour rentrer à Bordeaux. Vraiment, Bordeaux est une ville extraordinaire et voilà, j'étudie à Bordeaux.
Et très accessible aujourd'hui, qui permet aussi de voyager n'importe où, pas seulement
voilà,
en France.
Voilà, non, hein. Même dans mon petit village, j'ai une gare qui m'amène très rapidement à Bordeaux, qui me permet de prendre un avion ou un TGV. Bientôt, Paris est à 2h15, y a un aéroport international, donc c'est vraiment pratique.
Ouais. Vous êtes donc dans Alceste de Gloux. Je faisais un mauvais jeu de mots sur votre rôle tout à l'heure. Admet, ça a commencé il y a une bonne semaine. Il reste encore 8 représentations. On va parler de tout ça avec vous, bien sûr, Stanislas de Barbeyrac. Juste en rentrant dans cette émission, je vous proposais un petit chocolat pour prendre un peu de sucre avant de commencer. Vous n'en vouliez pas, pourquoi?
Non, banni le chocolat.
Bah, je sais pas pourquoi.
Bah, parce que le chocolat, c'est pas génial pour les chanteurs un jour de représentation. En tout cas, pour moi. Maintenant, je commence à connaître les trucs qui me vont ou qui me vont pas. Et je sais que le chocolat, c'est pas génial parce que ça colle un peu les cordes. Et on a du mal à.
Même
à
si
s'en
vous
sortir.
Le mangez à midi pour la représentation à 19h?
Non, je pourrais me le permettre, je pense. Mais voilà, on va pas se mettre les bâtons dans les roues. Voilà. Il y a assez de soleil dehors déjà, donc faut gérer ça.
Pourquoi gérer le soleil?
Le soleil non plus, c'est pas génial pour les cordes vocales.
Pourquoi?
Parce que ça congestionne.
Ah, d'accord.
Donc il faut faire gaffe à ça, il faut beaucoup s'hydrater et voilà, un jour de spectacle, je me mets un peu en mode moine tibétain qui fait attention à tout.
D'accord. Voilà. Il y a d'autres choses encore, alimentaire, c'est ça?
Ouais, alimentaire, il faut faire attention, ouais, les veilles de spectacle, jour de spectacle, même voilà, en plus Alceste, on a eu un gros rythme de travail, de répétition, de pré-général, général, première, deuxième qui se sont enchaînés assez rapidement. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Pas dîner trop tard le soir, pas d'alcool, pas de choses comme ça.
Pas d'alcool pendant toute la durée des représentations?
Moi, je bois pas d'alcool, en fait. C'est assez triste. D'accord. Je bois de l'alcool quand je suis chez moi, au milieu des vignes. Ça, j'en profite, parce qu'il y a de quoi, il y a du choix.
Ce serait dommage.
Mais en période de travail, non, je fais vraiment attention. Ouais. Il faut se coucher tôt, il faut beaucoup s'hydrater. Il y a quelques trucs dans la nourriture qui sont proscrits, ouais.
Quand on parle de l'hygiène du chanteur, c'est pas une blague. Hein. Enfin, c'est pas non plus mortel.
On n'est pas tous égaux. Hein. Il y a des gens qui ont des hygiènes de vie plus ou moins attentive, mais moi je commence à me connaître et je sais qu'il faut que je fasse attention à ça.
À vous entendre dans Don José, la fleur que tu m'avais jetée.
Ah oui, quand même.
Pourquoi quand même?
Non, c'était un petit défi, mais bon, voilà, on va y réécouter ça.
Pourquoi un petit défi?
Non, mais parce que
victoire de la musique, je vous le signale. Hein.
Ouais, je me souviens de ça, ouais.
L'an dernier.
Non, mais c'est vrai que Don José, c'est un air magnifique qui, sorti de son contexte, est faisable, mais Don José est un rôle exigeant, donc c'est toujours. C'est toujours difficile pour un chanteur de s'écouter dans des rôles que l'on va faire dans 15 ans.
Qu'on va faire dans 15 ans. Il a comme des idées pour de futur. On en parlera avec vous tout à l'heure, Stanislas. Georges Bizet.
fleur que tu m'avais jetée. Dans ma prison m'était restée, flétrissais-je cette fleur, garde toujours son doux odeur. Et pendant heures entières, sur mes yeux fermant mes paupières, de cette odeur je m'enivrais, et dans la nuit je te
La fleur que tu m'avais jetée, extrait de Carmen de Georges Bizet. C'était Stanislas de Barbera qui enregistrait lors des Victoires de la musique 2014. Très susurré par moments, quoi. Où je vois que vous faites à moitié la grimace. Mais non, c'était beau quand même, très musical ce qu'on vient d'entendre. Puis on sent quand même en termes d'esthétique, c'est plus Jonas que le Pavarotti à gorge déployée, hein, ce que vous faites.
Ouais,
enfin, ouais, Jonas Kav, c'est ce que je veux dire.
On fait en fonction de ce qu'on a.
Ah bah oui.
Non, mais ouais, c'est très difficile, hein, vraiment. C'est à chaque fois, c'est un supplice de s'écouter chanter. Ça remémore aussi un contexte. Mais bon, en même temps, c'est très utile pour un chanteur d'entendre ses défauts. Donc voilà. Mais je sais pas à quoi ça ressemble.
Oui, d'accord. Non. Parmi les chanteurs d'aujourd'hui, les ténors d'aujourd'hui en particulier, Stanislas, ouais. Duquel vous sentez proche, justement, je parlais en termes d'esthétique, comme ça, de couleur, d'appréhension
de
ce que c'est que cette voix. Vous savez pas, personne?
Vraiment, je sais pas. J'ai du mal à entendre ce que ça donne quand je chante. En plus, je travaille pas pour. Enfin, personne ne fait ça, mais je travaille pas pour essayer d'avoir un son. Comment dire? Parce que j'aime un son chez quelqu'un, chez quelqu'un d'autre, chez un Jonas, chez un Roberto, chez d'autres d'ailleurs que j'aime beaucoup, mais je travaille pas dans ce sens-là. J'essaie vraiment avec mon professeur de sentir et d'entendre ce qui me correspond le mieux. Et de, je travaille dans le sens de dire, voilà, j'aimerais que ce son-là ressemble à celui de Stanislas, quoi. Mmh. Et voilà, c'est
plutôt... bien, on fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire qu'on a les possibilités qu'on a, alors, la voix qu'on a, et puis on
l'exploite. C'est sûr que les gens arrivent à faire des parallèles, parce qu'il y a un nombre de ténors incalculable, mais moi, j'ai vraiment du mal à esthétiser ça. Mmh. Mmh.
Vous parlez à l'instant de votre professeur, Lionel Sarrazin, on peut le nommer, hein, qui est votre professeur.
Bien sûr.
À Bordeaux, depuis des années et des années, d'ailleurs.
Ouais, c'est mon seul et unique professeur depuis que j'ai commencé le chant lyrique.
C'est lui qui vous a fait commencer aussi.
Ouais, tout à fait. On s'est rencontrés au conservatoire de Bordeaux. L'année où je suis rentré au conservatoire, il entrait aussi comme professeur. Et je suis tombé par hasard dans sa classe. Et bien, ça fait 9-10 ans que ça dure. Mmh. Voilà, c'est mon professeur depuis toujours. Il l'est toujours actuellement. Et on a un travail fabuleux, et j'en profite parce que j'ai jamais l'occasion de le faire pour le remercier pour tout ça, parce que c'est pas simplement un prof, c'est aussi un ami dans la vie, et c'est important d'avoir une relation de totale confiance avec un coach vocal, surtout dans la construction de la carrière d'un jeune chanteur comme ça, où on commence à être sollicité, il faut faire des bons choix et il faut avoir une cellule comme ça très proche et très très confidente sur laquelle on peut se reposer pour avancer dans le bon sens. Et il en fait partie.
Et vous disiez tout à l'heure, on s'entend pas. Enfin, on essaie de s'écouter de temps en temps, mais on s'entend pas. On sait pas ce qu'on fait. Un professeur, ça sert à ça, à vous dire ce que vous faites.
Aussi, c'est exactement ça. On s'écoute, évidemment. On enregistre ses cours, on travaille. Moi, je travaille aussi seul parce que maintenant, je suis souvent seul et pas forcément tout le temps en contact avec lui. Donc, on cherche et puis on lui fait part de ce qu'on a trouvé. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que ça va dans la continuité de ce qu'on a travaillé la dernière fois ensemble? Parce qu'on explore des choses, on reprend des choses que l'on a fait il y a 1 an, 2 ans. Donc, c'est un travail de laboratoire comme ça qui est passionnant et que lui adore aussi. Et voilà, tous les profs ont des façons différentes de travailler. Mais
c'est important d'avoir, comme je souvent remarqué ça chez les chanteurs, une personne qui est vraiment la celle qui vous, vous a formé, oui, qui vous a plutôt aidé à vous former, à former votre voix.
Oui, oui, oui. Moi, j'en ai toujours eu qu'une. J'ai assisté parfois à des j'ai participé plutôt à des masterclass, et c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Je pense que c'est dû à ma personnalité. J'ai besoin d'avoir quelqu'un, une personne, moi.
Ouais, de confiance totale.
Ouais. Et de travailler ensemble. Je sais qu'il y a des chanteurs qui ont 1, 2, 3 profs. Moi, c'est pas mon truc.
France Musique.
Des références du passé, c'est la question qu'on pose souvent à nos invités. Eh bien, voici quelques-unes.
Treues Herz in Liebe vergeht, da welken die Lilien auf jedem Beet. Da muss in die Wolken der Vollmond gehen, damit Tränen die Menschen nicht sehen. Da halten die Englein die Augen sich zu und schluchzen und singen die Seele zu. Und wenn sich die Liebe dem Schmerz entringt, ein Sternlein, ein neues am Himmel erblinkt, ein Sternlein, ein neues am Himmel erblinkt, da springen drei Rosen. Gehen alle Morgen zu dir.
Le Meunier et le Ruisseau qui referme presque, pas tout à fait, c'est l'avant-dernière pièce, La Belle Meunière de Franz Schubert, un certain Hubert Giesen au piano et un certain autre Fritz Wunderlich qui chantait ici. Wunderlich qui est l'un des choix. Alors, je vous ai imposé La Belle Meunière, ça n'a pas l'air de vous plaire trop ça, hein, Stanislas.
Je déteste.
Il déteste, oui, il avait l'air de détester en l'écoutant.
Je comprends pas que vous ayez choisi ça, mais bon, c'est pas grave.
Et Wunderlich, alors, ça c'est vous qui l'avez choisi?
Ouais, je suis fan.
Je comprends,
fan.
Oui.
Je suis fan, j'adorerais chanter comme lui, mais voilà. Et c'est quelqu'un que j'écoute beaucoup, qui est une référence aussi pour moi dans le rôle de Tamino, que j'ai abordé, que je vais réaborder. Voilà, j'adore cette voix. Je trouve que c'est vraiment un miel. Et puis j'adore ces ou et ces a dans le passage. Je trouve ça incroyable.
Les couleurs.
Ouais, ouais. Vraiment. C'est très touchant comme voix, quoi. Ça s'explique pas. Ouais. Ça s'explique pas. C'est à la fois parfait techniquement, mais il y a un truc en plus qui est qui met la chair de poule, quoi.
Il y a le côté en même temps, enfin d'un point de vue style, il fait ça comme une rengaine, hein, c'est rien, c'est une chanson.
Ouais, c'est ça.
Il y a pas de vibrato, Antoine me disait, enfin, mon réalisateur, c'est l'épure totale, c'est vrai, il y a rien.
Ouais, il y a un truc simple et honnête que j'adore. Vraiment. C'est ça qui est touchant, je crois, que j'ai un chanteur qui chante de façon honnête comme ça, avec une limpidité. Sergueï Lemeshev aussi, un vieux chanteur, un vieux ténor qui chante aussi comme ça, qui a une couleur très, très claire comme ça, mais c'est touchant, ça s'explique pas.
Est-ce que vous avez abordé le lead d'ailleurs déjà?
Oui, j'aime beaucoup, ouais. J'aime beaucoup. J'ai déjà eu l'occasion de faire en récital les Dichterlieder de Schumann, un cycle aussi de Fahren den Gesellen de Mahler. J'aime beaucoup faire cet exercice, je trouve que c'est très important aussi dans la construction d'un chanteur d'aborder ce répertoire.
Puisqu'on est au cœur de la musique, là, avec le, enfin, ouais, simplement exactement. Parce qu'on n'a pas toutes les scories de l'opéra, la mise en scène, les machins.
Ouais, voilà, ça,
ça enlève. Là.
Ouais, ça enlève certains automatismes, le lead, je trouve. Et c'est bien parce qu'il y a un naturel qu'il faut retrouver et une conscience du texte et tout ça. Et puis c'est un travail aussi, notamment dans le lead, avec le pianiste, qui est très intéressant parce que c'est vraiment, en ce qui concerne même La Belle Meunière, les Schumann, tout ça, c'est vraiment un duo, quoi. Donc c'est très intéressant artistiquement.
L'autre référence que vous avez choisie, enfin ténor aimé on va dire, hein, ce que je vous ai demandé Stanislas, alors là c'est Franco Corelli, on est tout à fait dans un autre genre. Hein.
Ouais, tout à fait dans un autre genre, mais malgré tout il y a une puissance charnelle et honnête aussi chez Corelli qui est absolument fantastique. C'est évidemment complètement un autre genre de technique et de répertoire, etc. Mais c'est tellement extraterrestre comme façon de chanter et tellement sain. C'est ça qui est fou.
On peut dire c'est la voix, enfin une voix d'un don incroyable,
ouais,
qui est exploité naturellement.
Mais en même temps, une technique vraiment implacable, quoi, parce que c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup la technique, qui était traqueur aussi, donc qui a lutté pendant des années contre son traque alors qu'il chantait partout. Mais c'est intéressant de voir à quel point on peut rentrer sur scène ou faire des enregistrements comme il l'a fait et être aussi efficace dans la beauté. C'est pas aussi efficace juste parce qu'on sait faire les notes. Le style, l'incarnation, c'était un homme magnifique qui avait une incarnation scénique incroyable. C'est vraiment une vraie référence pour moi aussi.
Vous dites traqueur aussi, parce que vous l'êtes vous-même traqueur?
Bon, je crois qu'on l'est tous un peu. On l'est tous un peu à un moment donné. Ça disparaît plus ou moins chez les chanteurs quand on rentre sur scène, mais je pense que c'est nécessaire aussi pour avoir conscience qu'on a quelque chose à faire. Oui.
C'est le fameux truc, hein. J'ai pas le trac en rentrant sur scène, ça viendra avec le talent, mon petit.
Voilà, exactement.
Franco Corelli qui chante ici cet air célèbre de La Force du Destin.
Oh, tu consoles
Alvaro, troisième acte de La Force du Destin de Giuseppe Verdi, c'était chanté par Franco Corelli, rien à voir avec ce qu'on avait avant, mais c'est comme ébouriffant aussi ce qu'on vient d'entendre, hein, Stanislas.
C'est très mauvais. Hein.
L'opéra italien, vous aimez pas?
Non, c'est dingue cette voix, quoi. C'est vraiment, à chaque fois que j'écoute ça, je me dis, mais quelle bête, quoi. C'est le mordant, la voix, et puis donc ce fameux naturel, quoi. Enfin, je trouve ça vraiment hallucinant, quoi.
Vous voulez faire ce répertoire-là, le répertoire italien?
Je sais pas.
Vous savez pas?
Je sais pas du tout. J'aime, mais pour l'instant, ça me correspond pas, je crois.
D'accord.
J'ai pas l'instinct d'aller vers ça. Mais j'aime écouter ça, en tout cas. On verra. Celui-là est quand même La Force du Destin, c'est quand même un répertoire bien particulier. Il y a d'autres choses dans le répertoire italien que je pense que j'aborderai. Mais j'aime écouter ça, ouais. Je pense que ça doit être très grisant pour un chanteur de chanter tout ça.
Mmh. Alceste de Gluck, c'est donc à l'Opéra de Paris depuis la semaine dernière. On retrouve là la production d'Olivier Py, hein, qu'on avait aimé il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans, c'est ça, hein,
oui.
Sous la direction de Marc Minkowski. C'était à l'époque Yann Beron qui faisait le rôle de Admet, et c'est vous donc, Stanislas de Barbeyrac, qui vous y collez ici. C'est facile de se mettre d'ailleurs dans une production qui existait déjà avant, rien que pour les questions de mise en scène. Je ne sais pas où les automatismes qui auraient été pris déjà par certains des protagonistes.
C'est ça, c'est pas évident. C'est vrai, mais donc je participais en tant qu'évendre, moi, la dernière fois, cette production.
Ah oui, donc vous l'aviez vécu à l'intérieur déjà.
Je l'avais vécu de l'intérieur. D'accord. Donc après, je suis arrivé complètement neutre aux répétitions, parce que j'avais évidemment les images de ce qu'avaient fait Yann et Sophie, parce que le couple Admet-Alcest est important dans cet opéra, évidemment. Donc voilà, j'ai fermé la partition et j'ai attendu les 5-6 mois là avant d'arriver pour me remettre dedans par petites touches. Et surtout, essayer d'effacer un petit peu les images scéniques que j'avais, parce que j'ai toujours envie d'arriver, voilà, et de me dire au metteur en scène, et là, en l'occurrence Marguerite Bourry qui reprenait la mise en scène, d'être voilà à 100% et ouvert à d'autres propositions, parce qu'on peut aussi changer des choses malgré tout. Si la carcasse existe, c'est très bien pour les déplacements, parce qu'il y a des mouvements scéniques et techniques importants dans cet ouvrage, mais je voulais aussi apporter ma touche, quoi. Donc, et puis c'est une rencontre aussi avec Véronique Jans,
voilà. Qui joue donc le rôle d'Alceste.
Voilà, que je ne connaissais pas.
Qui est une chanteuse géniale, hein, qu'on adore.
Ouais, vraiment.
Enfin, je sais pas comment elle est dans le travail et si vous avez apprécié, mais.
C'est formidable. Mais effectivement, en tant que chanteur, on sait pas à qui on a affaire quand on arrive, comment on va jouer, comment on peut jouer. Tout le monde est différent face à ça. Il y a des gens qui n'aiment pas les choses tactiles. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout qu'il y ait des distances. Enfin, voilà, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Donc, et c'était formidable. On s'est tout de suite assez bien entendu sur ce plan-là. Avec Marguerite, ça a été un travail très intense et très chouette.
Oui, c'est une chose très simple. C'est vrai, on rencontre des gens comme ça. On doit sur scène avec eux jouer l'amour, s'embrasser, se rouler par terre. Vous dites, en effet, si on n'est pas tactile, ça doit être un peu gênant parfois.
Ouais, mais ça arrive. Ça arrive qu'il y ait des gens qui n'aiment pas ça ou qui veulent vraiment faire les choses de façon très théâtrale, c'est-à-dire un peu semblant. Et moi, par exemple, j'aime pas ça. Je sais pas le faire. C'est-à-dire que quand je prends quelqu'un dans les bras, il faut que je le prenne dans les bras. Enfin voilà, je suis comme ça, c'est ma personnalité. Si on me demande d'embrasser quelqu'un, il faut l'embrasser, quoi. Je pense que le public.
Comment ça se passe d'ailleurs dans ce cas-là? C'est vrai, on se pose toujours la question, un baiser vous faites à quelqu'un qu'a priori vous n'êtes pas supposé aimer, quoi. Ça se passe comment?
Ouais, c'est ça, qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam. Bah oui. Et première répétition, donc là vous vous embrassez. Bon, bah on se regarde, on rigole et puis on dit on s'embrasse, d'accord, moi je suis d'accord ou non, on attend la première. Voilà, c'est des choses ce qu'on se dit comme ça. Voilà, très, très simplement.
Et au moment où c'est pris dans le feu de l'action.
Voilà. Mais il y a des gens, oui, qui veulent pas faire les choses réellement tout le temps en répétition. Voilà, on a aussi nos journées où on arrive pas en forme, où on se dit bon, là, on marque tout parce que ça va, on l'a déjà fait. Voilà.
Et puis il y a la musique de Gluck, faut en parler quand même. Elle est très belle là-dedans. Puis j'ai pas la sensation, je vous ai pas entendu dans le rôle d'admettre que ça doit vous aller bien, ça quand même.
Ouais, je suis très bien dans ce répertoire. Je vais aborder trois rôles, donc Alceste, Armide et Iphigénie. Donc je me sens très bien dans cette musique centrale classique. Et on peut voilà, je pense que c'est très sain pour la voix, pour moi, pour à ce moment-là de ma carrière, pour d'aborder Gluck et Mozart et parfois d'autres choses, mais je m'y sens très bien, ouais, ça me correspond bien.
Le répertoire, votre voix se développe vraiment.
Bien. Voilà.
France Musique.
Je disais tout à l'heure qu'on vous a découvert Stanislas de Barbeyrac. Enfin, moi, en tout cas, vous allez me dire que je retarde, mais c'est comme ça. Cet été, à Aix-en-Provence, on a du bol, c'était enregistré par France Musique.
Nun muss er fort. Ah,
Du deuxième acte de la flûte enchantée de Mozart. C'était Marie Rixmund qu'on entendait en Pamina, Christophe Fischasseur en Zarastro et vous-même, Stanislas de Barbeyrac, en Tamino. C'était Pablo Heras Casado qui dirigeait l'an dernier au mois de juillet au festival d'Aix-en-Provence. Et puis Simon McBurney dans cette mise en scène absolument formidable. Enfin, moi je l'ai adoré en le voyant sur place. On s'en était causé d'ailleurs à Aix lors d'une émission il y a tout juste un an. C'est vrai. Comment vous l'avez vécu, vous, cette mise en scène rétrospectivement qui nous semblait nous tellement belle, tellement chouette, tellement bien, quoi.
Ouais, c'était planant.
Ah, carrément aussi,
ouais.
Bon.
Ouais,
donc
non,
pour
vraiment.
Tout le monde.
Non, non, vraiment, c'était déjà une découverte, parce que je connaissais Simon juste de réputation, mais je n'avais jamais travaillé avec lui. Et c'était vraiment formidable. C'était vraiment un travail de troupe pendant presque 2 mois à Aix, dans un contexte en plus génialissime de travail.
Et, vous voulez dire avec beaucoup de répétitions.
Beaucoup de répétitions. C'était contexte agréable parce qu'on était au Grand Théâtre de Provence tous ensemble avec des moyens de répétition super. Le Festival d'Aix, c'est un festival vraiment très accueillant. Les personnels, tout ça, on est très prise en charge et voilà, ça contribue aussi au succès d'une bonne ambiance de répétition, etc. Et c'était formidable parce que Simon est quelqu'un de fédérateur, il a su mettre tout le monde ensemble dès le début. Alors c'est un peu surprenant parce qu'on n'a pas l'impression, on n'a pas l'habitude de travailler comme ça, nous les chanteurs lyriques. Bah voilà, Zarastro était là toutes les répétitions alors qu'il intervient pas souvent, Papagena, voilà, mais il souhaitait qu'on ait notre heure et demie tous ensemble tous les jours pour travailler sur des exercices de théâtre. Alors on aime ou on n'aime pas. Au début c'est surprenant, mais à la fin on se rend compte que ça crée quelque chose en scène.
Des exercices de théâtre, c'est-à-dire ?
Eh bien, on était dans une grande salle tous ensemble avec des cerceaux, des ballons. Voilà, ça peut paraître
surprenant,
étonnant, mais c'est vrai, on l'a fait. C'est des exercices d'échauffement en fait, mais voilà qui nous font prendre conscience déjà de tous les gens qui sont sur un plateau d'opéra et pas simplement arriver quand on fait son truc. Et ça, on le ressent sur scène après, parce que quand Tamino est là pendant un quart d'heure alors qu'il ne fait rien et que en spectacle et que les autres sont à côté, il faut savoir pourquoi on est là, quoi. Et grâce à tout ce travail en amont, on le sait, il y a des tensions qui se créent entre les gens, les personnages. Et c'était vraiment une très bonne école. En tout cas, moi, en jeune chanteur en construction, ça m'a apporté beaucoup. Vraiment
dites,
beaucoup.
Jeune chanteur en construction, mais à l'occasion de cela, on vous a vraiment remarqué, Stanislas de Barbera.
Oui, c'est sûr. C'est parce que le festival est très visible et que c'est quand même un premier rôle. Et c'était une chance formidable pour moi.
Ça fait plaisir comme de voir tout d'un coup qu'on a quelque chose qui sonne comme le rôle, enfin à un moment en tout cas le rôle de sa vie, quoi. Enfin un des rôles de sa vie.
Et puis en plus Tamino, c'est mon rôle, quoi. Je veux dire, c'est ce que j'ai envie de faire encore pendant pas mal d'années. Et j'ai toujours plaisir à faire ça et j'ai des Tamino qui arrivent, donc je suis vraiment content.
À Genève, entre autres, j'ai vu, c'est ça.
Oui, à Genève, là, oui.
Pourquoi vous dites c'est le rôle de ma vie? Pour quelle raison,
parce
le personnage
que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire dans Tamino, malgré tout. Et je pense que, en ayant la chance d'en faire plusieurs à venir, c'est un rôle dans lequel on peut se renouveler assez facilement. Parce qu'il y a tellement de façons d'aborder la flûte enchantée, au niveau théâtral, je veux dire, et même musical. Donc parfois on travaille avec des orchestres baroques, parfois on travaille avec des orchestres romantiques, donc le diapason change, donc il faut s'adapter. Donc voilà, il y a plein de choses, donc je suis très content. Je pense que c'est un rôle qui est pour moi maintenant et pour quelques années et qui me fait du bien.
Sure.
L'air de Tamino, premier acte. De la flûte enchantée de Mozart, on retrouvait Stanislas de Barbeyrac, Pablo Errázkázado et le Freiburger Baroque Orchestreur, il y a à peine un an à Aix-en-Provence. Pour cette flûte enchantée mémorable, oui, l'orchestre baroque de Fribourg. Vous n'avez même pas demandé, Stanislas, parce que c'est d'une génération, parfois on fait beaucoup de baroque, vous faites du Gluck, du Mozart, non, ça non, le baroque non. Enfin, c'est pas la formation initiale, quoi.
Non, du tout. Non. Du tout. Alors, j'ai rien contre, hein. J'aime beaucoup la musique baroque, mais c'est vrai que les propositions n'arrivent pas en ce sens-là. Et c'est vrai que je fais partie d'une catégorie de ténors qui est pas évidente à placer dans le répertoire baroque, qui sont souvent des contre-ténors ou des ténors aigus à la française, comme ça, surtout dans le baroque français. Mais je pense qu'il y a quelques petites choses que je pourrais quand même aborder. Donc, voilà. Attendons de voir.
Vous disiez tout à l'heure, Don José peut-être dans 15 ans, c'est ça?
Ouais.
Hein,
ouais.
C'est prévu comme ça. Il y a d'autres rôles comme ça qui doivent scander ce que vous voyez de votre carrière future. Dans 10 ans, dans 20 ans, je ne sais pas.
Ouais, on a, c'est pas qu'on fait des plans, mais il y a des choses qu'on peut aborder dans plusieurs années, ou alors malheureusement qu'on nous propose trop tôt, donc il faut faire attention à ce genre de choses. Mais voilà, Don José, Werther, le répertoire romantique français, ce sont des choses que je vais aborder dans une petite dizaine d'années. Je pense pas avant. Je pense que j'ai vraiment des choses à faire maintenant avec un certain répertoire, notamment donc Gluck, Mozart, certains Verdi, mais pas. Voilà, j'ai des limites comme Traviata, par exemple, pour l'instant que j'ai déjà abordé, mais qui constitue encore une petite, pour moi, une petite limite des choses que je ne veux pas franchir. Je vais aborder aussi Macduff dans Macbeth de Verdi à Marseille. Donc voilà, ce sont des étapes. J'aimerais aborder Nemorino. Mais évidemment qu'on pense au rôle. On entend aussi vers quoi la voix va aller. Parce qu'on essaye des choses aussi donc en laboratoire avec son professeur. On fait des airs, on aborde des choses. Mais voilà.
Et il y a un rêve qui serait celui dont vous ne savez pas si vous arriverez à le faire un jour, mais qui serait vraiment le...
Je pense que j'y arriverai, mais j'ai vraiment envie de chanter Lohengrin.
D'accord.
Ouais. Je pense que j'y arriverai, mais j'ai le temps, évidemment. Mais il y a des choses dans Wagner que j'aimerais aborder, parce que je trouve que c'est un monde à part et qui me passionne. Mais voilà, Lohengrin, par exemple.
Ouais. Question choc du jour. Il a choisi Stanislas de Barbeyrac, Shostakovich et Lady Macbeth à la Bastille en 2009, ce qui veut dire que le souvenir est précis. Hein.
Ouais. Ouais, ça a été un choc, vraiment. J'étais encore à l'atelier lyrique, ouais. Et donc on avait la possibilité d'aller aux répétitions, de voir beaucoup de spectacles. C'était vraiment très sympa pour ça aussi. Et je me suis assis Lady Macbeth de Shostakovich. Je connaissais pas. Je connaissais de nom. Et c'était Martin Couzet, je crois, qui faisait la mise en scène.
C'est ça.
Et c'était un choc. Je pense que c'est un opéra qui dure 3 heures et des brouettes. Hein, et j'étais dans le siège et ça s'est terminé. J'avais l'impression que je m'étais assis il y a 10 minutes. Mm-hmm. C'était splendide.
Puis la mise en scène était très forte, enfin très violente
c'était
aussi.
Dingue. C'était vraiment un choc musical. Westbrook était incroyable. J'étais avec une amie de l'atelier lyrique, on a eu le même choc. Vraiment, on était scotchés au fauteuil. Une intensité musicale incroyable. Et puis vraiment, ces images, quoi. Ça m'a bouleversé, cette musique.
Un extrait de Lady Macbeth de Gdansk de Dmitri Shostakovich, mise en scène de Martin Couchet, on s'en souvient. Enfin, c'est Stanislas qui s'en souvenait aujourd'hui pour nous. Et de la voix d'Anna Maria Westbrook qui était ici. Un mot quand même de l'atelier lyrique, de l'atelier de Paris, de l'opéra de Paris, pardon, Stanislas. Vous y avez passé, vous nous le disiez tout à l'heure, 2 ans. Et vous êtes revenu régulièrement au fil de cette émission. Ça veut dire que ça a été important, ça.
Oui, bien sûr, parce que je suis arrivé de ma petite province directement à l'atelier sans avec peu d'expérience, hein, parce que j'avais fait que 2 ans de conservatoire à Bordeaux. Donc ça a été.
Vous étiez encore un tout jeune chanteur?
Bah, je suis rentré à l'atelier, j'avais 24 ans ou 25 ans. Donc c'est j'étais un bébé chanteur en plus, j'avais peu de background, donc c'était un choc aussi parce que c'est très complet, il y a beaucoup d'informations à gérer quand on n'a pas l'habitude, parce qu'en plus on se retrouve avec des chanteurs de la même génération qui ont eux beaucoup d'expérience, parce que à l'étranger, notamment aux États-Unis, en Europe de l'Est, etc., ils ont des formations assez poussées. Voilà, très bonne école. Ça a été pas facile, mais j'ai d'excellents souvenirs. Et puis
il y a aussi des copains aussi, je crois, non ?
Ouais, bien sûr.
Bah oui,
j'ai toujours en contact avec beaucoup de gens de l'atelier. On se croise sur scène, mais d'autres sont de vrais amis. Donc donc c'était une très très belle étape, l'atelier. Et je remercie Christian Schirm de m'avoir permis d'y participer.
Ouais. Alceste de Gluck, ben c'est justement à l'Opéra de Paris, au Palais Garnier, pour 8 représentations encore. La prochaine, c'est ce soir à 19h30. La dernière, le 15 juillet, la direction de Marc Minkowski, la mise en scène d'Olivier Py. La suite de l'actualité pour vous, Stanislas, ce sera les dialogues des Carmélites à Amsterdam au mois de novembre. À nouveau la flûte à Genève, décembre, janvier. Et puis Munich, vous serez encore pour les dialogues, décidément, le chevet de la force. Là, pas mal.
Ouais, très content. Et j'en ai d'autres en plus.
Il y en a d'autres encore à venir.
Ouais, donc je suis très content. C'est un rôle que j'aime beaucoup, qui est court mais intense. Et j'ai un petit concert quand même à Salzbourg, juste après le Alceste de Gluck.
D'accord.
Pour Schöpfung, la création.
Salzbourg, on va y aller dans un instant en plus, vous allez voir ça. Le site internet encore pour Stanislas de Barberac, si vous voulez suivre vraiment toute l'actualité. Je voulais faire aussi rendre un petit hommage à Franck Ferrari, puisqu'il était de la première mouture de la production de cet Alceste de Gluck. Vous me rappeliez tout à l'heure, Stanislas, qu'il y aura une messe hommage à Franck Ferrari à Saint-Roch, mardi à 10h30,
tout à fait.
si on veut y aller. Vous l'avez rencontré à l'occasion d'ailleurs.
Oui, on avait travaillé ensemble donc pour la première mouture d'Alceste. Donc c'est une perte tragique, c'était un homme formidable.
Ouais, vraiment quelqu'un qu'on regrette vraiment. Salzbourg, disiez-vous, et ben voici un David Pénitent, vous avez fait avec Minko et Bartabas.
C'est ça, alors là ce sera de nouveau Minko, mais il n'y aura pas de chevaux pour la création, non.
Pas à chaque fois quoi.
Pas à chaque fois.
Une bouffée du David Pénitent capté à Salzbourg en représentation avec Stanislas de Barberac. Ce Mozart était dirigé par Marc Minkowski avec ses musiciens du Louvre. L'émission du jour était préparée par Aurélie Moreau, réalisée par Antoine Courtin, avec aujourd'hui Virginie Cassagne et Paul Simonacci.